Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin, une heure ensemble pour parler de vos animaux. Alors au sommaire aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chatons ce matin. Grâce à ma première invitée spécialiste des chats, la vie des chatons n'aura plus aucun secret pour vous. Quel rôle joue la maman dans le développement des petits chats? Quelle est l'importance de la relation au sein d'une fratrie de chatons? Comment prendre soin d'un chaton orphelin? Voilà autant de questions qui trouveront des réponses grâce au docteur Anne-Claire Gagnon, ma première invitée. Côté faune sauvage, nous allons nous intéresser à un petit animal souvent assez proche de nous, les humains, mais pour autant, bel et bien sauvage, immersion dans le monde fascinant de l'écureuil roux. Enfin, dans C'est votre histoire, vous découvrirez la vie et l'œuvre d'une jeune retraitée de la gendarmerie. Elle s'appelle Hopkins. C'est une Saint-Hubert qui a officié pendant toute sa carrière comme chien de recherche des personnes disparues. C'est sa maîtresse qui sera mon invitée pour nous parler d'elle. 0826 300 300, vous connaissez par cœur le numéro du standard de Sud Radio. On se retrouve d'ici quelques instants. A tout de suite.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Bonjour Anne-Claire Gagnon, merci d'avoir répondu une fois de plus à mon invitation.
Bonjour Natacha, c'est un plaisir
Anne-Claire,
d'être avec vous.
Merci beaucoup Anne-Claire, vous êtes vétérinaire, vous êtes, on le sait maintenant, une amoureuse des chats. Vous êtes auteure également de nombreux ouvrages sur nos petits félins préférés. Alors, le printemps, c'est la saison des naissances des chatons, en particulier en ce moment. Alors, grâce à vous, nous allons essayer d'en savoir plus sur leur développement. Parce que c'est vrai que les chatons nous fascinent, ils nous amusent, on aime les observer, on aime les regarder. Mais il y a tant de choses à apprendre sur eux. D'abord, Anne-Claire, au moment de la naissance, on peut dire que le chaton s'ouvre véritablement au monde.
Ah oui, complètement. À la fois avec ses yeux et à la fois avec ses oreilles, puisque il lui faut quand même quelques jours avant de commencer à voir un petit peu et un mois pour entendre complètement tous les sons. Donc au début, le chaton, c'est juste un bébé d'amour qui a besoin de manger, d'avoir des câlins de sa maman, d'être léché et pouvoir dormir tout son temps.
Oui, et puis là, c'est le début finalement d'un grand apprentissage de tout ce qui va l'entourer. Et en premier lieu, bien sûr, ce qui l'entoure, c'est sa maman. La maman en chat joue un rôle vraiment crucial dans le développement du chaton, Anne-Claire.
Oui, complètement. Ça, c'est non seulement la maman, mais ses frères et sœurs aussi. Mais au début, il est complètement dépendant, effectivement, de sa mère. Et quand il n'a pas la chance, ni sa mère, d'être dans une vraie maison, c'est vrai qu'elle les met en sécurité, elle revient s'occuper d'eux. Et c'est elle qui, les premières semaines, de toute façon, si la maman chatte n'était pas là, ils ne seraient pas capables de faire leurs besoins. Donc, ils ont vraiment besoin d'être stimulés, stimulés par les chats.
Oui, ça va au-delà de la simple alimentation. Il n'y a pas que la lactation, c'est vraiment toute cette bienveillance, tous ces réflexes peut-être aussi que la maman a vis-à-vis de ses petits qui font que le petit chat deviendra grand.
Absolument, parce qu'effectivement, sinon, il n'est pas capable d'uriner, de faire ses besoins tout seul les trois premières semaines. Donc, il est totalement dépendant d'elle. Et en fait, ce qu'elle fait aussi très, très bien et que nous, humains, on ne sait pas faire quand on doit prendre en charge des chatons orphelins, c'est qu'en le léchant comme ça partout, en fait, elle fait une stimulation psychomotrice qui est absolument géniale pour permettre justement aux chatons d'avoir un développement qui va très très vite, hein, parce qu'ils commencent à marcher, ils n'ont pas un mois, et ils apprennent tout, et ils sont totalement autonomes quasiment à 8 semaines.
Oui, et vous disiez aussi que la relation au sein de la fratrie est cruciale dans ce développement du chaton.
Oui, parce que sinon, c'est pas tellement avec la mère chatte que les chatons vont jouer, c'est vraiment entre eux qu'ils apprennent tout ce qui va être leur dictionnaire, la grammaire de la communication.
Donc ça intervient un petit peu plus tard, au bout de quelques semaines.
À partir, oui, de la sixième semaine, les jeux commencent à se mettre en place. Et c'est vraiment un moment crucial. Tous ces jeux, apprendre à sauter sur un autre chat, apprendre à faire le gros dos, à sentir que son frère ou sa sœur a des crocs et à faire... miaou pour réagir. Et du coup, ils apprennent effectivement à maîtriser la capacité de leur morsure. Et tout ça, c'est totalement fondamental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français, qui a bien étudié les livres de comportement et qui a été extrêmement attentif à ça, dit qu'on ne peut absolument pas donner un chaton avant qu'il ait 8 semaines révolues, tout simplement pour qu'il soit parfaitement équilibré et qu'il ait vécu tout ce qu'il devait vivre avec, au sein de sa fratrie, avec sa mère chatte. Mmh.
Ce que vous nous décrivez, ça s'appelle notamment l'apprentissage des autocontrôles, hein, le savoir mordre sans faire mal, savoir faire attention à ses griffes aussi. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce développement relationnel, finalement. C'est un mode de communication comme un autre.
Oui, et ça s'apprend particulièrement bien parce que ça s'apprend au sein des frères et des sœurs, donc ils ont en plus tous la même odeur qui est transmise par la mère et la même affection, donc c'est quelque chose qui est totalement naturel. Mmh. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils apprennent aussi quelque chose qui est fondamental pour le chat et qui est d'ailleurs la réponse à cette sensation-là de la frustration au moment du sevrage, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour eux et qu'ils ont vraiment besoin d'acquérir jour après jour avec leur mère.
Alors le sevrage, il se fait en plusieurs étapes. On démarre par un sevrage alimentaire.
Oui.
Et la maman qui dit stop, une usine à lait.
C'est ça. Et ça, c'est justement très intéressant parce que techniquement parlant, les chatons, ils sentent bien que mais si, il reste du lait, mais si, on pourrait y aller. Et c'est la chatte qui dit non. C'est fini, maintenant, voilà. Et c'est là où justement la réponse à une frustration se met en place. Et alors après, ça dépend des mamans chats, parce qu'en général, c'est vrai qu'elles sont géniales, mais parfois, il y en a des un peu plus énergiques que d'autres.
Oui.
Donc, bon. Mais donc,
après, ça peut aussi dépendre de la taille, de la portée.
Oui. Et alors là, ce qui est très important aussi, et que c'est vrai, tous les propriétaires ne comprennent pas toujours, parce que ils n'en ont pas la connaissance, c'est que les besoins en protéines de la mère et des chatons sont énormes, parce que, comme vous le disiez, c'est une usine à lait, et ça, donc ça consomme beaucoup d'énergie. Et pour le développement harmonieux des petits cerveaux de ces chatons, pour qu'ils deviennent plus tard des adultes super, eh bien, il faut absolument qu'ils aient une alimentation extrêmement riche en protéines et parfaitement adaptée au fait qu'ils sont des chats et qu'on ne peut pas les alimenter avec autre chose qu'un aliment fait pour cette croissance et ce moment particulier de la vie qui ne se reproduit qu'une fois.
Tiens, d'ailleurs, vous avez un petit conseil alimentaire pour la maman qui est en pleine lactation et puis après pour les bébés au moment du sevrage, quand on commence à leur donner autre chose?
Alors, le meilleur conseil pour la maman, c'est d'en parler à son vétérinaire ou à son équipe vétérinaire, parce que les assistantes sont toujours de très bons conseils aussi. Donc, prendre un aliment qui est vraiment fait pour cette période-là, la lactation. Et en général, les producteurs d'aliments ont prévu que les chatons puissent manger l'aliment que la mère va prendre. Parce que souvent, elle n'a pas suffisamment d'appétit parce que toute son énergie est prise par la lactation. Donc, il faut un aliment très riche. Mm-hmm. Un peu comme un aliment de cosmonaute.
Oui.
Voilà. Donc, très, très dense. Et pour les chatons, on veut aussi que ce qu'ils commencent à manger, ce soit d'abord du lait maternisé, bien sûr, ensuite avec des croquettes toutes petites, et aussi toujours en présentant au chaton tout ce qu'après il pourra avoir l'occasion de manger, c'est-à-dire des textures différentes avec d'une part des pâtés qui vont aller très bien avec mélanger avec le lait, et après des croquettes, et en pensant que le lait maternisé et l'eau, c'est deux goûts, c'est deux textures différentes. Mmh. Donc il faut absolument que les chatons aussi aient cette expérience-là et deux coupelles différentes.
On a Amélia qui a composé le numéro du standard. Bonjour Amélia.
Oui, bonjour.
Amélia,
bonjour.
Vous nous appelez des Landes, je crois.
Oui, tout
c'est
à fait.
C'est bien ça. Alors, oui. Vous avez un chaton, Amélia?
Oui, je vais les avoir là dans peu de temps.
Oui. Ah, ils ne sont pas nés encore?
Si, ils sont nés, mais en fait, la propriétaire vendait les chats, vous savez, pour se faire de l'argent.
Oui.
Et donc, elle ne voulait plus de cette chatte. Bon, elle a quand même assez âgée. Et donc, j'ai proposé, en fait, de la reprendre parce qu'elle allait être tuer et incinérer. Moi, ça, je ne veux pas.
Ah oui, c'est une chatte reproductrice, donc que vous allez récupérer, voilà. C'est ça? D'accord.
Voilà, et elle me cède en même temps les quatre bébés qui vont naître.
Vous aviez déjà des chats avant, Amélia, ou c'est une grande première?
Non, j'avais déjà, j'avais plus que ça, j'avais 8 chats au début, et puis au fur et à mesure, ils sont décédés. Bon, mais voilà, ça se passe comme ça.
D'accord.
Il ne reste plus que deux. Et puis j'ai mon mari, ça fait un moment qu'il me parle de reprendre les chats, et je lui dis, écoute, non, ce n'est pas le moment. Et puis il me parle de celle-là, et puis rien à voir. Et je lui dis, bah, écoute, s'ils veulent, s'ils sont d'accord, je veux bien prendre la chatte, qu'elle ne soit pas tuée, je trouve ça...
Ah ben bah, oui, bien
c'est
sûr.
C'est aberrant. C'est une chatte de quelle race, Amélia?
C'est une mince... Je crois que c'est une Isabella. Voilà, je cherchais.
Une Isabella?
Oui, je crois que c'est ça. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'importance.
D'accord, oui, de toute façon, c'est le geste qui compte, et effectivement,
oui,
vraiment, voilà. C'est un très beau geste qui vous honore, Amélia. Et franchement, voilà. La personne qui avait cette chatte et qui l'a fait reproduire pour vendre ses chatons et qui aujourd'hui s'en débarrasse, on ne lui tire pas un coup de chapeau, n'est-ce pas?
Voilà.
Vous aviez une question à poser à Anne-Claire Gagnon.
Oui. Donc, par rapport au chat que je vais avoir, c'est ce mois-ci que je vais avoir, donc très vite. Comment on fait pour donner du lait, les chevrés, savoir quel lait leur donner? Est-ce qu'on leur donne du lait de chèvre? Est-ce qu'on leur donne
Non, on donne du lait maternisé, Amélia. En fait, il faut voir avec votre vétérinaire et prendre effectivement un lait maternisé, donc spécial chat.
On peut aussi le trouver, Anne-Claire Gagnon, dans les grandes surfaces spécialisées.
Oui. Hein,
on n'est pas obligé de l'acheter chez le vétérinaire. Vous en trouvez un peu partout.
Mais comme il faut des croquettes, en même temps, c'est logique de passer à la clinique vétérinaire et de les prendre.
Mmh. D'accord, parce que c'est important pour...
Donc, pas de lait de chèvre, pas de lait de vache.
D'accord.
Hein, du lait spécifique pour chaton.
D'accord.
Anne-Claire, quel autre conseil peut-on donner à Amélia, justement, pour les chatons qu'elle va récupérer?
Aussi prévoir d'acheter de la litière végétale et d'avoir les petits bacs de chatons qui vont bien.
C'est quoi un petit bac chaton qui va bien, Anne-Claire?
Mais parce que c'est un bac moins haut que le bac
pour qu'il puisse facilement aller dedans.
Parce qu'effectivement, au début, ils vont plaisanter, ils vont jouer dans le bac, ça ne va pas forcément être utilisé comme ça devrait. Mais d'une part, la litière végétale, il n'y a aucun risque si jamais ils veulent croquer un copeau, c'est pas grave comme la litière minérale. Et puis d'autre part, effectivement, il faut qu'ils puissent physiquement enjamber la hauteur du bac pour pouvoir y aller.
Mmh. Oui, parce que vraiment ici, il va falloir qu'ils s'habituent, parce qu'apparemment la maman chatte, elle vit dans 4 mètres carrés, donc c'est vraiment tout petit.
Ah oui, donc 4 mètres carrés.
Ouais, c'est vraiment tout petit pour elle. C'est alors qu'ici, elle va se retrouver dans une maison de 110 mètres carrés, donc ça va la changer.
Alors il va peut-être falloir l'habituer progressivement. Vous êtes d'accord avec ça, Anne-Claire?
Absolument, Natacha. Oui, il faut la première semaine la sécuriser dans une chambre, voilà, avec ses affaires.
Ce que je n'avais pas pensé, donc je ne me trompe pas là-dessus.
Ses écuelles, etc. Et puis après, bien sûr, elle sera très heureuse d'avoir enfin de l'espace chez vous.
Ensuite, elle va explorer.
Dans la bonne maison.
Bon, eh bien, écoutez, Amélia, j'espère que ces petits conseils vont vous aider. En tout cas, bravo pour ce geste formidable que vous avez fait. Puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions à nous poser pour vous accompagner dans la prise en charge de cette maman chat et de ses petits. 4 petits chatons qui vont bientôt arriver chez vous. Félicitations.
Merci beaucoup.
Très bon week-end, Amélia. On va maintenant donner la parole à Violetta. Bonjour, Violetta.
Bonjour mesdames, alors moi
Bonjour.
C'est tout simple.
Dites-nous.
J'ai un petit chaton qui est plein d'énergie, évidemment,
oui.
Il explore tout, et alors il adore gratter mon canapé.
Ah.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
On est bien d'accord, Anne-Claire,
qu'on
ne laisse pas le chat faire ses griffes sur le canapé, qu'il y a moyen de dériver en fait ses envies de griffade vers autre chose que le canapé, ce n'est pas une fatalité.
Absolument.
Bon.
Donc, en fait, il faut comprendre s'il fait ses griffes verticalement sur votre canapé, S'il y a d'autres griffoirs dans votre maison, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas les autres griffoirs ?
Déjà, est-ce qu'il en a, Violetta, des griffoirs chez vous ?
Oui, mais il n'est pas intéressé tout le monde.
Bah non, le canapé est tellement plus agréable à griffer.
Alors éventuellement aussi, mettre, il y a des produits pour rendre les supports, les griffoirs plus attractifs.
Oui.
Donc ça, ça peut aider aussi. Le féliciter à chaque fois qu'il l'utilise. Et puis, en dernier recours aussi, vous avez le droit à chaque fois qu'il utilise le canapé, de faire... et puis de claquer dans les doigts et de très gentiment le prendre tout simplement dans vos mains et de le déposer par terre.
D'accord.
Merci infiniment de votre appel. Anne-Claire, comme d'habitude, à chaque fois que vous êtes mon invitée dans cette émission, on a toujours beaucoup de questions sur nos amis les chats. Alors je recommande aussi la lecture de votre ouvrage qui s'appelle « Les chats, comment prennent-ils soin de notre santé ?» Ça sort en livre de poche. Au mois de juin, voilà, exactement. Oui. Merci beaucoup Anne-Claire Gagnon pour ces précieux conseils. On aurait pu rester ensemble encore pendant très très longtemps pour parler des chatons. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera des chats très très vite. Merci Anne-Claire. Et quant à nous, on se retrouve d'ici quelques instants pour parler d'un petit animal très furtif, mais très très beau à observer.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bon samedi matin à tous. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous des passionnés des animaux. Les animaux de compagnie, bien sûr, mais aussi les animaux sauvages. Et ça tombe bien, puisque nous allons entamer notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage.
Deux invités aujourd'hui pour cette séquence à l'état sauvage. Bonjour Michel Blant.
Bonjour.
Merci beaucoup Michel d'être avec nous. Bonjour également à Erwan Balanza. Bonjour Erwan.
Bonjour Natacha, bonjour Michel.
J'ai pas écorché votre nom Erwan.
C'est très bien.
Non, j'ai eu un parfait. Doute. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation sur l'antenne de Sud Radio. Vous venez de publier ensemble un très beau livre qui s'intitule « La face cachée de l'écureuil ». C'est aux éditions de la Salamandre. Pourquoi ce titre pour un ouvrage dédié à l'écureuil ? Pourquoi la face cachée ? Michel, vous qui êtes un spécialiste des mammifères sauvages.
Eh bien, la face cachée, c'est simplement pour dire que l'écureuil est peut-être un exemple de mammifère ou d'animal qu'on peut voir assez fréquemment, qui peut être assez proche de nous, parfois dans les localités aussi, mais finalement dont on connaît de loin pas tous les détails de sa vie, de ses mœurs, bien qu'il soit diurne et qu'on l'observe relativement facilement. Il a pas mal de côtés cachés, justement, que Erwan, le photographe, a pu aussi mettre en évidence avec ses superbes photos.
Alors justement, Erwan, vous êtes le photographe de cet ouvrage. C'est vrai que les photos sont absolument magnifiques. Hein. C'est une vraie balade, effectivement, dans cet univers de l'écureuil roux. Comment on s'y prend pour photographier un écureuil ou des écureuils roux ?
Ben en fait, les écureuils, comme presque tous les autres animaux sauvages, le secret, en fait, c'est le temps qu'on va consacrer à son sujet. Donc moi, en fait, ça fait plusieurs années que je travaille. Alors, je ne travaille pas que sur les écureuils, hein. J'ai des commandes un peu partout et puis je mène souvent plusieurs projets de front. Mais je dirais que ces 5 dernières années, quand j'étais chez moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps, c'est-à-dire plusieurs centaines d'heures, à les observer et à les photographier. Alors en fait, c'est beaucoup de temps de préparation. Souvent, l'instant photo, il est assez court, hein. C'est ouais. Assez furtif. Hein,
d'ailleurs, ça doit être un moment dingue. Quand il se passe quelque chose, alors que vous avez certainement attendu pendant des heures et des heures.
Alors en fait, il y a ça, et puis après, il y a des images aussi que moi, j'avais dans ma tête. Alors par exemple, il y a des images où on voit les écureuils en train de sauter en l'air, qui se dessinent sur le fond de ciel ou à travers les branches. Ça, souvent, c'est des images qui demandent beaucoup de préparation, parce qu'il faut observer l'écureuil, savoir précisément où il va passer. Il faut aussi qu'ils reviennent régulièrement. Après, il y a toutes les contraintes liées à la photographie. Et puis, même si c'est un animal assez peu peureux, alors moi, je l'ai photographié dans des petits bois autour de chez moi, ça reste un animal sauvage, donc il faut le photographier à l'affût, en fait.
Est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont plus propices que d'autres pour les observer et donc pour les photographier ?
Oui, alors c'est vrai que si on veut observer des écureuils, c'est un animal qui va... La chance, en fait, avec l'écureuil, je dirais, par rapport à beaucoup d'autres mammifères, c'est que c'est un animal diurne.
Donc en fait, il va être actif en journée, alors que beaucoup de mammifères, souvent, sont plutôt actifs la nuit. Alors après, plus l'endroit est calme, plus généralement les animaux vont être actifs en journée. L'écureuil, c'est sûr que quelqu'un qui habite à côté d'un parc où il y a des zones urbaines, où il y a beaucoup d'arbres, où il y a des écureuils, ils sont aussi souvent peu craintifs parce qu'en fait, habitués à la présence de l'homme.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas les déranger réellement, mais pourtant, ils gardent quand même leur distance, mine de rien.
Ils gardent leur distance, mais en fait, plus ils sont habitués à des hommes qui sont inoffensifs et sans danger, plus ils vont accepter en fait une distance courte. Mmh. Et puis après, alors bien sûr, si les conditions météo sont mauvaises, pluie, neige et tout ça, en général, ils évitent de sortir. En général, ils ne sortent pas trop le soir. On fait souvent plus d'observations le matin, parfois en pleine journée aussi. Et puis voilà, éviter les périodes effectivement de mauvaise météo, favoriser plutôt la matinée, et puis après bien repérer aussi dans la nature, il y a des indices qui permettent de trouver les écureuils.
Ah oui, quels sont-ils?
Alors déjà, généralement quand il y a des résineux, s'il y a des pommes de pin, on va retrouver des restes de pommes de pin qui ont été grignotées par les écureuils. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi expliqué dans le livre, en fait, on a présenté, parce que il n'y a pas que les écureuils, en fait, à manger pommes de pin. Il peut y avoir d'autres rongeurs, il peut y avoir des oiseaux, mais ils n'ont pas tous la même dentition, et donc, du coup, ils ne vont pas tous attaquer les pommes de pin de la même façon. C'est pareil avec les noisettes, en fait. Hein. Quand on se balade, on trouve des fois des noisettes qui ont été mangées, et on peut, si on est habitué, à reconnaître une noisette mangée par un écureuil, parce qu'il a une dentition assez puissante. Il fait déjà un trou en grignotant, donc ça peut être assez rigolo, parce que si on se balade en forêt, on peut entendre une espèce de grignotement, en fait, un bruit de grignotement qui est assez fort et assez
puissant. Je vous sentais prêt à nous faire le bruit du grignotement des noisettes. Il y a eu un petit temps d'hésitation.
mais à l'inverse, il y a aussi d'autres mammifères ou d'autres animaux qui vont manger des noisettes et qui ne vont pas les ouvrir comme les écureuils. Donc savoir reconnaître, alors c'est pas très dur, il suffit de le voir une fois ou de le voir en photo, savoir reconnaître une noisette qui a été grignotée par un écureuil, on peut être presque sûr qu'il va y en avoir dans le secteur, donc ça vaut le coup de revenir quelques jours de suite, de s'installer à l'affût. Et après, c'est vrai que c'est pas un mythe, l'histoire des noisettes. Si on trouve un noisetier qui a des noisettes, souvent les écureuils connaissent très 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 bien leur secteur et sont attirés comme des aimants par un noisetier qui a des noisettes.
Michel Blonde, vous qui êtes le spécialiste justement des mammifères sauvages et qui avez écrit les textes de cet ouvrage, on a tous, je crois, l'impression de savoir vraiment ce qu'est un écureuil et pourtant on ignore beaucoup de choses de ce petit animal. Vous, en quoi vous surprend-il le plus ?
Ce qui me surprend chez l'écureuil, c'est surtout la manière dont il se comporte par rapport à nous. Donc on a dit, Erwan l'a dit tout à l'heure, qu'il pouvait très bien, malgré le fait qu'il s'agisse d'un animal sauvage, s'habituer relativement bien à l'homme, et c'est évidemment le cas dans les agglomérations, dans nos cités. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on est dans des forêts de montagne, dans des forêts plus profondes, dans des endroits où l'animal a moins de contact facile avec les êtres humains, eh bien là, on se rend compte que c'est un joli petit animal, mais quand même un animal sauvage, qui va bien s'amuser d'ailleurs à nous éviter ou à nous contourner en allant toujours grimper de l'autre côté du tronc pour se soustraire à notre vue. Et puis, avec des vitesses aussi très étonnantes, il va monter très rapidement le long du tronc pour disparaître dans le feuillage, voire sauter d'un arbre à l'autre, et puis assez facilement peut-être semer l'observateur. Donc voilà, les aspects de son comportement sont souvent pas très bien connus. Et puis d'autres aspects aussi, comme la reproduction, c'est
alors justement, à quoi ressemble la vie de famille de l'écureuil ?
Ah ben la vie de famille, si on voulait l'observer, il faudrait déjà trouver son nid, parce qu'il construit un nid dans les arbres, mais à une certaine hauteur, posé sur une branche, c'est une grosse boule de branchettes tapissées de mousse à l'intérieur, et souvent...
C'est quelque chose qu'il construit, il ne profite pas d'un trou dans un tronc d'arbre, mais vraiment il construit quelque chose.
Alors, c'est quelque chose qui construit. Il peut profiter de vieux nids d'oiseaux, par exemple de corbeaux, de corneilles, ou bien il peut profiter aussi d'amas de branchages qui se sont coincés à l'émergence de certaines branches. Donc, il peut profiter de certaines choses, mais il aménage quand même son nid, puis surtout, il aménage l'intérieur dans lequel il va vivre et dans lequel les femelles auront leurs petits. Mais voilà, c'est quelque
chose. Elles ont
chose
combien de petits, Michel, les femelles, par saison?
Alors, elles ont entre 3 et 5 petits en général. Et puis, donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une partie très cachée en fait de la vie de l'écureuil, puisque ça se situe de nouveau en hauteur dans les arbres, à une hauteur où on voit peu de choses en fait. Hein. On voit plutôt l'animal des fois au sol pour se nourrir, voire pour au printemps rechercher les noisettes qu'il aura cachées un peu partout.
Ça, c'est pas une légende, le fait qu'il cache ses noisettes.
Alors, c'est pas du tout une légende, bien au contraire, parce que on peut l'observer au printemps. Moi, je l'ai observé simplement dans mon jardin. Il avait caché des noisettes dans le gazon, donc dans un gazon, et puis il venait les rechercher en profitant d'un moment où les chats sont absents, où il n'y a pas de dérangement. Donc effectivement, et je peux vous dire que j'étais très surpris parce que quoi de plus homogène qu'un gazon, et alors que l'écureuil se déplaçait, puis tout d'un coup faisait un petit trou et sortait sa noisette.
Ah oui, il avait parfaitement connaissance de l'endroit où elle était cachée.
Et tout à fait, tout à fait. Donc il avait un bon sens et un bon souvenir de l'endroit exact où il avait caché sa noisette pour le retrouver pratiquement sans peine.
Erwan, parmi les magnifiques photos qui sont publiées dans cet ouvrage, on voit que vous avez vraiment souhaité mettre en avant les capacités aériennes, les capacités de funambule, d'acrobate des écureuils.
Ben en fait, c'est vrai que dans la vie de l'écureuil, alors Michel en parlait, c'est un acrobate quand même qui peut monter très haut. Moi, j'ai eu l'occasion une fois de voir deux écureuils qui se poursuivaient, et puis ils sont arrivés une vingtaine de mètres dans un bouleau. Il y en a un qui est tombé. L'écureuil est resté quelques minutes au sol. Je regardais ça d'assez loin. Je me disais, mais il est mort, c'est pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai vu se relever tout doucement, avancer. Il a rescaladé à nouveau le même arbre. Il est reparti très haut. Il est reparti. Donc en fait, il lui était rien arrivé. Mais c'est quand même impressionnant de suivre les cabrioles, les écureuils, leur capacité de saut est aussi phénoménal. Ils ont une musculature qui est... Alors, c'est vrai que quand on les voit comme ça, ça fait petite peluche, petit animal, mais c'est vraiment un athlète. Hein. Il est capable de faire des sauts qu'aucun athlète humain n'est capable d'atteindre en termes de longueur. Et c'est quand on est photographe, tout ce qui est, je dirais, déplacement rapide, mouvement, c'est forcément un challenge. Et du coup, dans un premier temps, je me suis dit...
Et
que
en plus,
oui.
En hauteur.
Et en plus en hauteur. Donc je me suis dit que si je voulais illustrer la vie de notre petit athlète, c'était important de pouvoir montrer cet aspect en fait et sa capacité à sauter de branche en branche. Donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai d'abord travaillé au téléobjectif, ce qui est assez classique en photographie animalière. Et puis, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être à une quinzaine de mètres pour réaliser les photos. Mmh. Et puis après, quand j'ai commencé à bien connaître les écureuils, en fait, j'ai placé des systèmes d'appareils photo soit déclenché quand l'écureuil passait et coupait un faisceau infrarouge, soit que je pouvais déclencher à distance, mais avec un objectif grand angle, ce qui permet de présenter l'animal en fait dans le paysage qui l'environne, en fait, de le restituer dans son décor naturel.
Et de capter tout son mouvement.
Et aussi de capter le mouvement. Ce qui voulait dire, en fait, pour saisir le mouvement d'un écureuil, pour ceux qui font un peu de photos, il faut une vitesse de l'ordre de 1 demi-millième ou 1 3 millième de seconde si on veut que la photo soit nette.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Je présente votre ouvrage pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Ce livre est vraiment fascinant, à la fois par les connaissances que l'on acquiert sur cet écureuil et puis par la beauté de ses photos. Ça s'appelle « La face cachée de l'écureuil ». C'est aux éditions La Salamandre et je crois que c'est le 9e titre d'Histoire d'images qui est la collection d'ouvrages de photos de la Salamandre. Voilà, un livre que je vous conseille parce que ça fait du bien de voir ces animaux en pleine nature. Merci à vous deux pour ce joli récit et cette balade en pleine forêt en compagnie des écureuils.
Merci Vanessa, bonne journée.
Merci à vous. Allez tout de suite notre question veto.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Bonjour Véronique.
Bonjour Natacha.
Merci d'être avec nous.
Merci de me prendre pour ma question.
Écoutez, j'espère que je vais pouvoir vous aider. Je vous écoute, Véronique.
Alors voilà, j'ai adopté, c'est très récent, depuis 3 mois, donc depuis le mois de janvier, un petit York âgé de 13 ans.
Oui.
Qui présente malheureusement plusieurs problématiques de santé. Mais là, entre autres, ce qui concerne ma question du jour... est une problématique de, je ne sais comment les appeler, kystes, dirons-nous.
D'accord.
De formes, couleurs, tailles, apparences différentes.
Oui.
Il y a vraiment de tout. Il y en a, ça fait granuleux. Il y en a, c'est carrément des grosses boules.
Qui sont placées à quel endroit ?
Un peu partout sur le corps.
D'accord, il n'y a pas de zone particulière. C'est également réparti.
Oui, alors le dos, les boules essentiellement au niveau du cou, les choses énormes,
oui.
Qui elles ne présentent pas d'aspect visible, puisqu'il y a, c'est à l'air d'être
je
sous
que la votre
peau.
Téléphone s'est déclenché,
oui,
Véronique.
Coupé.
Oh, voilà, coupé. c'est bon, on vous entend, mais je vous en prie.
Et puis, pour les autres, dont on dirait, comme je vous l'évoquais, des kystes granuleux.
Mais elles ont quel aspect ? Est-ce qu'il n'y a plus de poils à ces endroits-là ? La chair est à nu ? Ou est-ce que vous sentez que c'est une boule qui est sous la peau ?
Alors, les boules, oui. Pour les deux grosses boules, c'est sous la peau.
D'accord.
Des choses énormes.
Et si vous les,
vraiment,
si
la
vous
taille
les touchez,
d'une balle de ping-pong.
D'accord, oui, effectivement, pour un York, c'est très gros.
Oui.
Et si vous les touchez, vous avez le sentiment que c'est adhérent aux tissus qui sont en dessous, ou est-ce que vous arrivez presque à les prendre dans la main en tirant un peu sur la peau?
Du coup, j'essaye.
Et là, on va assister à un drame. Véronique va se faire mordre par son petit York.
J'ai l'impression que c'est difficile, c'est délicat à dire.
Bon, est-ce que
alors, adhérent peut-être.
Une question très très basique, mais est-ce que ce York, depuis que vous l'avez, a vu un vétérinaire?
Ben oui, évidemment, parce que c'est là que quand on me l'a donné, on m'a dit qu'il est en parfaite santé.
Mais oui. Il avait déjà ses kystes quand on vous l'a donné.
Tout à fait.
D'accord.
Il avait vu un vétérinaire dans le Var, c'était là, à ce moment-là.
Et est-ce qu'à part les kystes, Véronique, il va bien par ailleurs? Il mange bien?
Il mange bien, mais il a un collapsus trachéal.
Oui, ça c'est assez classique chez les petits York. Hein. Oui.
Non, mais c'est ce qui me fait m'interroger sur... importance pour l'opérer comme le suggère mon vétérinaire. Là.
Est-ce que votre veto vous suggère de retirer les kystes ou les plus gros?
Oui, mais comme je lui ai dit, vous me faites peur parce qu'à son âge et avec tous ces autres problématiques, j'ai peur qu'il reste sur la table d'opération.
Alors, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, Véronique,
oui,
mais,
s'il vous plaît.
Mais je n'ai pas vu votre York, contrairement...
J'ai confiance en vous, moi.
Oh là là, la lourde responsabilité. Mais contrairement à votre vétérinaire qui a vu ce petit chien, comment s'appelle-t-il d'ailleurs?
Ginger.
Contrairement à votre vétérinaire qui a vu Ginger, moi je ne l'ai pas vu. Je pense que votre vétérinaire a raison de vous dire qu'il faut retirer des kystes, peut-être certainement pas tous, mais ceux qui pourraient soit s'infecter, soit être dans des zones délicates qui vont le gêner au quotidien. Par exemple, je vous dis ce qui me vient par la tête, au niveau d'une articulation ou à un endroit où il se couche. Vous voyez, parce que ça peut devenir derrière une source de problème, ça va s'infecter, il va se lécher, ça va faire de la surinfection. Donc cela, il serait préférable certainement de les retirer. Maintenant, si votre vétérinaire vous dit qu'il se sent d'opérer Ginger, c'est parce qu'il se sent de le faire, vous voyez, c'est qu'il a confiance, il sait qu'il va faire une intervention qui va nécessiter une anesthésie de courte durée. Il a certainement fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il a dû prendre les kystes, regarder s'ils étaient adhérents, pas adhérents, voir avec quelle facilité il va les retirer ou pas. Donc moi, je vous conseille vraiment de suivre son avis. Ça ne sert à rien de tout lui retirer. Ce serait bien de retirer ceux qui vont poser problème ou qui posent déjà problème. Et aussi d'en profiter pour les faire analyser. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un diagnostic un peu plus précis.
C'est ça, oui. Une biopsie.
Voilà, exactement. Il est vraisemblable qu'un certain nombre de ces kystes soient des kystes graisseux, mais il n'y a peut-être pas que ça, parce que vous décrivez quand même des choses un peu granuleuses. La notion d'adhérence au tissu en dessous est importante aussi. C'est pour ça que faites confiance à votre vétérinaire. Je pense que vraiment, il ne va pas se lancer dans une intervention s'il sent qu'il prend un risque pour Ginger. Alors, il y a toujours un risque, évidemment, quand on opère, mais ce risque, il est mesuré. Et s'il vous dit qu'il faut y aller, c'est qu'il a mesuré ce risque et que lui, il a confiance dans le geste qu'il va réaliser. Donc, je crois que vous pouvez aussi lui faire confiance.
D'accord.
Voilà,
alors,
Véronique.
J'aurais fini de vous embêter.
Vous ne m'embêtez pas.
D'aller voir un vétérinaire spécialisé en dermatologie tel qu'on me l'a suggéré.
Alors,
au niveau
franchement,
de mon entourage.
Pour ces kystes-là, vu ce que vous décrivez, je ne pense pas. Votre vétérinaire va prélever ces kystes, il va faire des biopsies, il va les envoyer au laboratoire et derrière, vous saurez de quoi il en retourne. Et là, il sera grand temps d'aller voir un spécialiste en fonction des analyses. Mais ce que vous décrivez est vraiment à la portée d'un vétérinaire d'accord. qui n'est pas spécialiste en dermatologie.
D'accord.
Voilà. Bon, allez, confiance,
écoutez,
Véronique.
Vraiment, vous me rassurez quelque part, parce que je me demandais si j'allais pas faire une bêtise.
Je ne crois pas.
Ok.
Allez, passez un excellent week-end.
Merci beaucoup, Natacha.
Merci, Véronique, et merci pour votre fidélité. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après avec une très jolie histoire.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
L'héroïne de notre séquence « C'est votre histoire » cette semaine est une jeune retraitée de la gendarmerie. Elle s'appelle Hopkins. Elle a pris sa retraite le 19 mars dernier, après 9 ans de bons et loyaux services auprès de la gendarmerie. Bonjour Sylvie Robineau, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio.
Bonjour Natacha, merci de nous accorder ce moment très privilégié. C'est un honneur pour nous.
Eh bien, c'est un honneur pour nous aussi. Sylvie, vous êtes adjudante-chef de la Gendarmerie nationale et vous étiez jusqu'à sa retraite la coéquipière d'Hopkins. Parce que ce que je n'ai pas expliqué en introduction, c'est que Hopkins, c'est votre chienne, c'est une Saint-Hubert et elle est spécialisée dans la recherche de personnes disparues. C'est bien ça ?
C'est ça, tout à fait ça.
Elle a travaillé pendant 9 ans à la gendarmerie. C'est quoi la vie d'un chien de recherche de personnes disparues ?
Alors, pour le Saint-Hubert, donc, c'est un protocole un peu particulier. C'est-à-dire, ce sont des chiens que l'on prend chiot. Ils sont sélectionnés par le centre cynophile de la gendarmerie à Gramat, oui. À l'âge de 3 mois. On va percevoir notre futur compagnon de route.
Oui.
Et il est élevé et il vit au domicile du maître.
C'est ça, c'est votre chien à la ville, au travail et dans la vie, en fait,
voilà.
Tout le temps.
Oui,
y
oui,
compris
oui,
pendant
fait.
Sa retraite, il faut bien le préciser, puisque Hopkins est toujours
oui.
à vos côtés.
Elle est toujours à mes côtés, oui, tout à fait.
Donc Hopkins, elle a réussi à passer les tests de la gendarmerie. J'imagine qu'elle a suivi une formation pour détecter des personnes disparues.
Oui, c'est une formation très longue. Donc, comme je disais, on les prend à l'âge de 3 mois et c'est tout petit, on les déclenche à l'olfaction. On leur apprend, donc on joue sur l'attrait, l'affectif du maître. Suis cette odeur et tu vas retrouver ton maître.
D'accord.
Donc, c'est des toutes petites distances au départ. Ensuite, on augmente les distances, le temps, la difficulté des traces et de pistes. Et c'est une formation qui se déroule sur 2 années.
D'accord. Et alors, elle a combien de missions à son actif en 9 ans de carrière ?
Hopkins, elle a un peu plus de 400 missions à son actif, ce qui est déjà assez conséquent.
Ce qui est énorme, oui. Et elle a retrouvé oui. combien de personnes ?
Elle a retrouvé en tout 60 de personnes.
Ah oui. Et vous me disiez en préparant cette émission que non seulement elle recherchait des personnes disparues, mais aussi des malfaiteurs parfois.
Oui, voilà, parce que le travail du Saint-Hubert en gendarmerie n'inclut pas que la disparition dite inquiétante. De par notre statut et nos fonctions, également, la formation du chien aussi, est complémentée par la disparition, enfin du moins la recherche de malfaiteurs.
Et je suis certaine que nos auditeurs sont comme moi, ils ont envie de savoir comment, lorsque vous êtes sur une mission, une personne a disparu, on vous confie cette mission, comment vous vous lancez dans cette aventure, comment elle travaille Hopkins à vos côtés, ou comment elle travaillait puisqu'elle est retraitée maintenant.
Donc de toute manière, c'est une sollicitation des unités de terrain, soit sur une disparition dite inquiétante ou une recherche de malfaiteurs. Mmh. Ça peut aussi être, bien entendu, les fugues aussi de mineurs. Donc, on prend cette mission en compte. Arrivé sur les lieux, on se rend généralement, si c'est une disparition inquiétante, en fonction des éléments donnés, au dernier endroit où la personne a été vue.
Oui.
En majeure partie, ce sont des départs du domicile.
Oui.
Et à ce domicile-là, par un jeu de questions, on doit sélectionner une odeur de référence pour pouvoir faire renifler cette odeur de référence à notre chien, de manière à ce qu'il suive la piste, donc le tracé odorant, retrouver le cheminement chronologique fait par la personne.
Ça veut dire que, pour être sûr de bien comprendre, donc vous allez, admettons, au domicile de la personne qui a disparu et vous cherchez un objet qui lui appartient, sur lequel il y a son odeur et que son odeur à elle, pour pas qu'il y ait de confusion. C'est ça l'idée.
Voilà, c'est important. C'est, pour un exemple, généralement, on exclut dans un milieu familial la corbeille à linge.
Oui.
Parce que c'est mélangé, ils peuvent avoir un X à faire. Donc là, non, ce n'est pas un objet fiable en odeur de référence par cette multitude de molécules.
Donc souvent, vous prenez quoi ?
Alors, il m'arrive les mégots de cigarettes, bien souvent pour les messieurs.
Et alors pourtant, ça m'interpelle ce que vous me dites, parce que les mégots de cigarettes, la cigarette en elle-même, elle a une odeur super forte, ça ne perturbe pas le chien ?
Non, ils ont cette odeur à discriminer, à rechercher plus l'ADN. Voilà. Je prends donc pour les messieurs bien souvent les têtes de rasoir pour en retirer les résidus de poils de barbe.
D'accord.
Ça suffit pour partir. Et également, même sur des brosses à cheveux, peignes, les cheveux qui s'y trouvent. Et tout ça, ils sont mis dans des sacs hermétiques. Pour ne pas être pollué après lors des déplacements par des odeurs environnantes. Et c'est ces objets-là que l'on fait renifler à notre chien avant le départ de piste.
Et après, quand une personne, par exemple, est enlevée dans une voiture, est-ce que Hopkins, elle perd la trace ou est-ce qu'elle est capable encore de suivre malgré ces perturbations finalement ? Parce qu'on imagine le cheminement du domicile, puis d'un seul coup, il y a une rupture d'odeur, non ? C'est pas comme ça que ça se passe ?
Oui,
je ne suis pas spécialiste en gendarmerie, vous l'avez
chien,
compris.
Non, alors sur la capacité du Saint-Hubert, c'est sûr qu'ils ont cette capacité à prendre sur de l'infime, sur des départs voiture. On ne va pas vendre du rêve, mais il faudrait que le conducteur roule à une vitesse très infime pour éventuellement arriver, mais très vite, on perdra la trace.
D'accord.
Après, le chien, s'il y a un départ voiture, théoriquement, il doit nous indiquer la rupture de piste.
D'accord.
Généralement, le Saint-Hubert nous regarde ou revient sur le maître pour indiquer là, à cet endroit-là, il n'y a plus rien. Mm-hmm. Donc après, c'est aussi le travail, nous,
d'enquêteurs,
en tant que gendarme, aussi d'enquêteurs, d'en tirer les déductions utiles à l'enquête.
Et Hopkins, elle était capable de repérer des traces combien de temps après le passage de la personne ?
Alors, sur ces missions opérationnelles avec Hopkins, j'arrêtais après 7 jours après
disparition. 7 jours après la disparition.
Oui.
C'est incroyable.
Alors, ils sont capables de prendre bien plus, mais pour certains aussi 10 à 15 jours. Après, en majeure partie, sur les sollicitations des unités, c'est très rare que les demandes de recherche soient au-dessus de 7 jours, 8 jours. Voilà, les déclenchements, et Dieu merci, sont faits bien avant quand même. Hein, ces délais assez
effectivement, conséquents. Ça, on le sait tous aujourd'hui, hein, notamment avec les alertes enlèvement, on a bien compris qu'il fallait agir très vite pour se donner le maximum de chances de retrouver les personnes disparues. Dites-moi, Sylvie, quel est votre plus beau souvenir de recherche avec Hopkins ?
Il y en a plusieurs, mais après, moi, je dirais, elle peut rester simple, mais comme toute disparition, ça reste compliqué parce qu'on est confronté effectivement à la détresse des familles. Et moi, j'ai mon beau souvenir, enfin, j'en ai deux, mais il me revient surtout cette disparition sur un adolescent de 14 ans en Mayenne qui avait un mal-être. Et la maman vivait seule. Et Hopkins remonte la piste et on découvre ce jeune adolescent couché dans un pré à chevaux. Et c'est vrai, quand on arrive sur, quand on voit ce jeune allongé, on craint le pire en fait à la remontée, voilà, à la découverte. Et non, heureusement, en fait, il était juste endormi, voilà.
Et alors très rapidement, votre deuxième exemple, votre deuxième plus beau souvenir.
Alors.
Je suis gourmande, hein, mais oui, vous nous transmettez tellement d'émotions, on imagine.
Non, vous avez raison.
Cette
alors,
joie
là,
incroyable.
Par contre, c'est une disparition en Normandie. D'ailleurs, Hopkins a une lettre de félicitations à l'issue. Là, j'interviens à 4 jours de délai sur une personne âgée, diabétique. Alors, 4 jours sur une personne vraiment diabétique, et pareil,
c'est
on s'attend toujours au pire. Et après plus d'un kilomètre de piste avec des relectures, Hopkins m'emmène dans un sous-bois et on découvre cette personne qui était face allongée, face contre terre.
Ah oui.
Déjà un peu en état de raideur, mais elle était vivante.
D'accord.
Voilà, donc elle a pu être secourue.
Voilà. Eh bien, écoutez, vraiment, Sylvie, merci beaucoup pour ce récit. Je suis vraiment très heureuse qu'on ait rendu hommage à ces chiens de la gendarmerie. On les voit parfois dans, à la télévision, hein, quand il y a malheureusement une catastrophe. Oui. Et on sait à quel point ils sont importants, mais c'est bien de le vivre de l'intérieur. Donc, grâce à vous, écoutez, caressez Hopkins pour nous et souhaitez-lui une excellente retraite en votre compagnie. La relève est prête, j'imagine.
Oui, la relève est prête. Elle est opérationnelle. Il s'agit d'un Jean Saint-Hubert de 2 ans et demi qui s'appelle Otchoum. Voilà,
écoutez.
Voilà.
Parfait. Merci Sylvie. Merci à vous pour ce très joli témoignage et cette très belle histoire. On vous souhaite un bon week-end.
Merci Natacha. Merci Sud Radio.
Merci. Et très bon week-end à vous aussi, très chers auditeurs de Sud Radio. Bien sûr, je vous retrouve avec autant de plaisir dès la semaine prochaine.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.